Cinquième séance de ce parcours dans l'américanisme russe. Je l'avais intitulé « La ville stalinienne » et il ne faut pas que vous attendiez à m'entendre parler aujourd'hui des gratte-ciel de l'après-guerre, des bâtiments en hauteur, des sept sœurs de Moscou. J'en parlerai la prochaine fois. Je voudrais en effet m'arrêter de manière un peu plus substantielle sur les développements qui interviennent en Russie au cours des années 30 et jusqu'à l'immédiate après-guerre et considérer les gratte-ciel staliniens comme participant d'un autre moment, d'un moment différent. Je voudrais aujourd'hui essayer de réfléchir à ce qui se joue entre culture de masse, culture populaire, consommation, architecture, urbanisme, dans ce cycle qui voit le pouvoir de Staline s'affirmer, qui voit Staline purger les appareils, le parti, l'économie et exercer une terreur sans partage à partir de la deuxième moitié des années 30. C'est aussi la Seconde Guerre mondiale dans laquelle la Russie est engagée à partir de juin 1941 et qui détermine des rapports nouveaux, on le verra, avec les États-Unis. Alors, je voudrais partir, comme je l'ai déjà fait, avec un voyage aérien qui est le premier vol entre la Russie et New York que Tchkalov, aviateur célèbre, aviateur star, et ses deux camarades effectuent en 1937. Et j'y vois l'expression d'un désir manifeste de rapprochement, de proximité en cette année 37, qui est une année où les purges battent tout à fait son plein. Lorsque Tchkalov prend la parole à la réception qui se tient en l'honneur de l'équipage à l'armoirie, du 71e régiment, où s'était tenu le célèbre armoirie show, immortalisé par la contribution de Duchamp, il tient ce langage. Notre pays, je cite, qui a établi son indépendance il y a 20 ans, étrange propos, marche de victoire en victoire, et nous demandons pardon à nos amis américains si, dans un certain nombre d'années, nous les dépasserons de multiples manières. Nous avons dépassé les difficultés, les glaces et les tempêtes de l'Arctique pour apporter des salutations à ce pays, et quand le premier avion de votre pays atterrira à Moscou, nous saurons alors que notre amitié aura été acceptée par le peuple américain. Donc il y a une espèce de position empathique qui passe par les aviateurs, et vous verrez qu'il y a un peu d'aviation aujourd'hui et il y en aura encore plus la semaine prochaine. Alors je ne vais pas faire ici un cours sur l'histoire de l'Union soviétique, sur l'histoire politique de l'Union soviétique. Il est clair que les années 30 sont marquées par une domination quasi totale du groupe stalinien. Les débats sont clos. C'est aussi une période de changement considérable en matière sociale, en matière culturelle, avec l'industrialisation, le mouvement de millions de paysans vers les villes et la mise en place d'un système économique et politique basé sur la contrainte étatique. Toutes les utopies coopératives sont balayées, et basé aussi sur un unanimisme idéologique qui marque une rupture très nette avec la NEP et avec le premier plan quinquennal. Y a-t-il dans ce contexte véritablement une ville stalinienne ? Elle est, si je puis dire, en construction. Elle s'élabore au travers des concours, au travers des projets, en rupture à la fois avec les modèles pré-révolutionnaires et les discours des années 20. Et il faut noter la permanente ambiguïté en matière dans la relation à l'Amérique. J'ai déjà souligné les différenciations qu'il faut faire entre américanisme, phénomène culturel de l'ordre des représentations et américanisation, transformation concrète des territoires, des villes et de la production. Les années 30 restent une période d'américanisation assez poussée dans beaucoup d'aspects et des aspects surprenants. En matière d'américanisme, les choses sont plus complexes. Une sorte d'anti-américanisme assez fort apparaît qui constitue le double, l'ombre qui suit l'américanisme positif en tout point. Et puis, les agents du premier américanisme et de la première américanisation sont balayées au moment même où les aviateurs célèbrent l'amitié entre les deux peuples. Je pense à ces figures dont j'ai parlé, Gurievitch, qui fait partie du groupe à gauche qui avait été le directeur de l'usine de tracteurs de Tcheliabinsk, construite par Albert Kahn, Braun, le président d'Amtorg, qui avait négocié tous les grands contrats avec Ford et Albert Kahn, Ochitovitch, le théoricien du désurbanisme, Osinski, tous sont fusillés, bien d'autres encore, évidemment, en 1937-38. L'image de l'Amérique se transforme aussi dans la culture soviétique, notamment avec l'exploitation que font les médias soviétiques de la crise de 1929 et de ses effets. Je me souviens, et c'est pour ça que je présente ce livre dans sa version française, d'un petit opuscule d'un historien de l'art, Mikhail Ilin, mais qui était un plumitif très, très prolifique, et qui a publié un livre sur le plan en Russie, qui a été publié en français, vous le voyez ici, et puis en anglais et en allemand. Dans ce livre, l'entrée en matière, avant d'argumenter sur l'importance du plan en Russie, ce sont les détresses et les absurdités produites par la crise de 1929. Quoi de plus scandaleux pour les Russes qui peinent à lancer leur production d'automobiles, comme je l'ai relaté, que de voir des montagnes de voitures neuves détruites pour les retirer du marché. Donc, et bien sûr, l'exploitation des péripéties vécues par les chômeurs que l'on voit sur la page d'en bas. Ce livre a été diffusé en France dans cette période. Il a été aussi aux États-Unis et bien sûr, il y avait des éditions russes. Donc, ces images du gaspillage, des files de chômeurs deviennent tout à fait familières. L'idée que les machines sont détournées de leur vocation. Ilin écrit « En Amérique, la machine n'aide pas le travailleur, elle n'est pas un ami, mais un ennemi. Toute nouvelle machine, toute nouvelle invention jette des milliers de travailleurs dans les rues et le travailleur américain méprise les machines qui lui ont pris son pain. Comment ?» Cela se passe-t-il chez nous? Plus nous avons de machines et plus la journée de travail sera courte et plus la vie de chacun d'entre nous sera légère et heureuse. Donc, un retour aux diatribes anti-tayloriennes d'avant 1914 qui avaient été suspendues pendant la période de l'adoption de l'Organisation scientifique du travail. Ce qui est intéressant au passage, c'est qu'en évoquant le cauchemar du machiniste américain d'un côté, et l'industrie prospère, florissante de la Russie, Ilin oublie de mentionner la dette de la seconde envers la première. Alors, l'américanisme se met en place dans le domaine de l'architecture d'une autre manière, puisque les années 30, c'est aussi, en termes quantitatifs, le début du passage à l'acte dans la transformation des villes, après les quelques tentatives de construction de quartiers ouvriers et de bâtiments publics, dans les années 20. Et dans le cadre de ce passage à l'acte, le rapport à l'Amérique ne disparaît pas. Une phase nouvelle s'ouvre avec un changement dans le cadrage, la thématique des publications, j'entrerai pas dans ce détail, mais aussi par une certaine intensification des contacts directs d'architectes russes avec l'Amérique, puisque les relations diplomatiques sont rétablies en 1933. Dans ce cadre, de nouveaux héros apparaissent. Ce ne sont plus Le Corbusier, ce ne sont plus les architectes radicaux d'Allemagne. Ainsi voit-on dans la revue de l'Union des architectes célébrer la figure de Paul Cret, architecte français issu des Beaux-Arts, qui est à l'époque, comme on le sait, le professeur de Louis Kahn, et qui propose une critique académique du fonctionnalisme et du constructivisme. Donc on fait parler les autres, et notamment les Américains, contre les modernes. Le tournant dans cette conjoncture nouvelle, le concours pour le Palais des Soviets qui est organisé en plusieurs phases. Un premier concours entre collectifs ouvriers, puis un concours à grand spectacle en 1931-32, pendant que l'Église du Christ Sauveur, construite en 1830, est dynamitée. Elle a depuis été reconstruite à titre expiatoire sur le même terrain qui se trouve, vous le voyez ici, au bord de la Moscova et à quelques centaines de mètres du Kremlin. Le concours pour le Palais des Soviets est un moment très important. C'est sans doute la dernière confrontation entre l'architecture occidentale, et notamment l'architecture radicale d'Europe, et l'architecture russe pour des décennies. Le concours est marqué par des projets qui sont commandés à des architectes américains, européens de renom, ce qui leur donne l'espoir qu'ils ont peut-être la chance d'obtenir la commande, et c'est dans cet espoir que s'abîme Le Corbusier, que nous voyons ici devant sa maquette. Gropius est invité également. Ces architectes participent avec un grand enthousiasme à ce projet, dans lequel ils voient une revanche possible sur l'échec des modernes au concours de la Société des Nations en 1927. Et beaucoup d'architectes étrangers présents à Moscou participent à ce concours. À gauche, Hannes Meyer, le deuxième directeur du Bauhaus, qui est à Moscou avec sa brigade de jeunes architectes radicaux depuis 1930. À droite, Gustav Hassenpflug, architecte allemand, collabore avec Ginzburg pour proposer cette solution assez remarquable avec une grande coupole vitrée portée sur des arcs d'acier. Il y a énormément d'inventions dans cette procédure. Les lauréats en 1932 seront au nombre de trois. Et il n'est pas inintéressant de voir quelle est la logique politique derrière le choix, évidemment, téléguidé du jury. Ce concours est observé de très près par les leaders, et notamment le premier leader d'entre eux. On a trouvé beaucoup de notes manuscrites de Staline sur les textes, sur les protocoles du concours. Ici, deux des trois lauréats, Joltovski, vétéran de l'architecture néo-palladienne depuis avant 1914, et dans le même temps, un homme assez courageux qui saura protéger des persécutions les jeunes de l'avant-garde à la fin des années 30. Yofan, jeune architecte lui aussi formé en Italie, et dont vous voyez ici le premier projet qui dissocie les deux salles proposées pour ce grand centre de rencontres politiques et culturelles, qui les dissocie et qui pose à côté un repère vertical bien plus moderne que celui très nostalgique de Joltovski, et surprise, un troisième personnage que personne ne connaissait, que personne ne connaît toujours d'ailleurs, ça reste une des grandes inconnues de l'histoire de l'architecture du XXe siècle, un Américain du nom de Hector Hamilton, ou Hector Hamilton, totalement inconnu au bataillon. Les sources les plus récentes, et notamment les travaux d'un très bon historien des villes russes de cette période, Meyerowitz, semblerait indiquer qu'il a été recommandé par Albert Kahn. On est en 1932, Albert Kahn est encore en train de négocier son troisième contrat, il échouera avec les Russes, et il est possible qu'il ait suggéré au leader soviétique d'inviter cet architecte, ou en tout cas de le souligner. Quel est le sens? Ce projet est particulièrement mauvais, c'est un projet monumental, pâteau, avec une écriture qui est assez ennuyeuse. La raison de ce choix est très simple, c'est que dans l'affichage, il était absolument vital dans l'affichage des résultats du concours de montrer que les stars de deux générations d'architecture russe, Joltovski, l'ancien, et Yofan, le nouveau, très poussé par ses relations au sein du gouvernement, il était important de montrer que ces deux stars étaient légales et qu'elles allaient d'ailleurs l'emporter, en définitive, sur une figure américaine. Il y aura d'autres participations américaines, notamment celle d'un jeune architecte du nom de Simon Brynes, dont je reparlerai une seconde plus tard. Les Américains participent à ce concours sans être invités, puisque le concours est ouvert. Les épisodes suivants sont assez connus. Le projet de Yofan est un projet qui est retravaillé au travers de consignes directes données par Staline qui propose d'empiler les différentes composantes du bâtiment et de le couronner par une statue de Lénine, ici assez modeste, elle ne le restera pas longtemps, et vous voyez que l'idée change avec cette planche publiée dans la revue La Construction de Moscou. Nous voyons une étrange mutation s'opérer, le palais devient un gratte-ciel. Donc l'architecte américain est écarté après avoir été couronné par un prix très théorique, et le palais soviétique change de nature. Au lieu d'être une salle d'assemblée, et dont l'iconographie rappelle les palais de la Renaissance, rappelle le Colisée, rappelle les grandes salles de théâtre. Au lieu d'être donc une salle, il reste une salle dans ses parties basses, à l'intérieur, mais il devient un gratte-ciel. Et c'est là, évidemment, que le rapport avec l'Amérique va se jouer à nouveau au stade de la réalisation. Vous voyez ici une des versions, il y en aura de multiples, puisque ce bâtiment restera à l'étude pendant pratiquement 15 ans, une des versions qui nous montre comment progressivement ce gratte-ciel, par une sorte de mouvement télescopique, est devenu de plus en plus haut, et la statue de Lénine encore plus haute, elle aussi, allusion difficile à évacuer avec la statue de la Liberté de Bartholdi à New York. Vous voyez ici ce projet dans sa version finale, présenté au bureau politique dans les galeries du musée d'art occidental, du musée Pouchkine, de l'actuel musée Pouchkine. Donc ce bâtiment est mis en chantier, et dans la mesure où il est devenu gratte-ciel, eh bien, le rapport avec l'Amérique devient un rapport fondamental. Et je voudrais l'évoquer à propos de deux ou trois questions liées à ce chantier difficile, voire impossible. Vous comprenez, en voyant cette coupe du palais comparée à celle d'un gratte-ciel américain, pourquoi le chantier, l'opération était impossible, puisque ce gratte-ciel, en gros, la statue de la Liberté, version léniniste, posée sur un gratte-ciel, posée sur une gigantesque coupole, générant des poussées sur le sol absolument insurmontables, inacceptables par le sol spongieux rempli d'eau de Moscou. Donc un problème extrêmement difficile que celui des fondations. D'autres problèmes, sans doute moins difficiles, de construction de l'ossature, de travail sur les revêtements, tout ceci, ce sont des questions qui étaient assez largement réglées dans l'architecture américaine. Autre point très intéressant, c'est la situation urbaine de cet édifice. Vous voyez qu'il était placé à proximité, rappelez-vous du plan, à proximité du Kremlin, vous voyez que ce bâtiment tend à devenir le point focal de l'organisation des voies radiales, notamment des voies radiales sur cette rive de la Moscova, et j'y vois une sorte d'écho au plan de Burnham pour Chicago en 1909, qui était bien connu des Russes, ou un bâtiment Beaux-Arts, aussi un bâtiment à coupole, mais moins délirant dans son ambition, se trouvait au point de convergence d'un système de voies. En 1934, Yoffan et ses deux associés, considérés comme étant trop jeunes et sans doute aussi pour apaiser le puissant lobby des architectes de Leningrad, il est flanqué de deux associés, Gelfrech et Schuko. Et les trois architectes sont envoyés à New York en 1934 pour travailler à la réalisation du bâtiment. Et vous voyez ici deux dessins de Yoffan, qui sont des dessins réalisés a posteriori, donc deux vues du Rockefeller Center, réalisés a posteriori. Yoffan rapportera beaucoup de notes qu'il publiera dans les revues, notamment dans la revue de l'Académie d'architecture. Yoffan s'intéresse aux gratte-ciel les plus récents, et notamment aux éléments constructifs. Il s'intéresse aussi à l'urbanisme de New York et il écrit des pages très intéressantes sur le système des parkways qui est alors en cours de. Des avenues promenades alors en cours de réalisation à New York. Schuko publie quant à lui ses impressions dans la Pravda. Donc, beaucoup d'énergie est dépensée lors de ce voyage à travailler sur les questions de revêtement du bâtiment, à l'image du revêtement des gratte-ciels, c'est-à-dire exactement à étudier ce que Ladovsky, Lissitzky et les autres avaient considéré comme étant le plus décadent dans l'architecture américaine. Un épisode extrêmement significatif intervient, qui a été mis à jour il y a très peu de temps. C'est la question des fondations, la contribution américaine au travail sur les fondations du Palais soviétique. Vous voyez en haut le chantier des fondations autour de 1940. J'ai déjà dit que le sol était un sol exécrable, ce qui posera beaucoup de problèmes, et par exemple aux constructeurs du métro, qui feront appel à des ingénieurs américains, tout comme l'équipe du Palais des Soviets. Un des mandats de Yoffan à New York, c'est de parler avec le bureau d'études d'ingénierie de Moran et Proctor, pour l'inviter à venir travailler sur les fondations. Bureau d'études très important, Moran & Proctor a travaillé sur le pont George Washington à New York, sur le Lincoln Tunnel, sur le Grand Barrage sur le Colorado, sur le Golden Gate Bridge à San Francisco, et il est aussi le bureau d'études de référence pour la World's Fair de 1939. Donc c'est le grand bureau d'études new-yorkais de l'époque. Eh bien, il aura pas moins de 5 contrats pour travailler sur les fondations, pour faire des études de sol et travailler sur les fondations, mettant en œuvre son travail antérieur sur un autre bâtiment circulaire que vous voyez là, pour le projet, le premier projet pour le New York County Courthouse, élaboré en 1913 et finalement abandonné en faveur d'un bâtiment sur plan hexagonal. Donc ici, très concrètement, dans la mise en œuvre du programme du Palais des Soviets, je le répète, grande halle devenue gratte-ciel, le savoir-faire américain est convoqué de façon la plus claire. Dans le même temps, pour leur première manifestation publique à New York, c'est-à-dire le pavillon de l'URSS à la World's Fair de 1939, Yofan et Alabian vont s'efforcer de montrer que les Russes ne le cèdent en rien aux Américains. Donc voici ce pavillon de New York qui reprend le thème du presse-livre du pavillon de Yofan à Paris en 1937, mais qui le dédouble, deux presse-livres rejoints par une galerie circulaire et une grande tour. À l'intérieur de ce pavillon, que trouve-t-on ? Eh bien, vous le voyez à gauche, une grande maquette du Palais des Soviets pour montrer aux Américains que les Russes sont parfaitement capables de faire des gratte-ciel plus hauts que les leurs, ce que d'ailleurs les illustrés américains ne manquent pas de propager. Une autre planche comparative à droite nous montre le Palais des Soviets comparé à l'Empire State Building. Cette page a-t-elle été financée par les services de relations publiques soviétiques de New York, je n'en sais rien. En tout cas, la participation russe à la World's Fair est centrée sur la célébration, centrée au sens physique du terme, sur la célébration du Palais des Soviets. Le pavillon sera très rapidement fermé à la suite du mouvement d'opinion en faveur de la Finlande déclenchée par l'agression de l'URSS en Finlande. Deuxième projet, je poursuis la réflexion rapidement sur la question du gratte-ciel. Le débat ne s'arrête pas avec le Palais des Soviets et continue notamment avec le concours pour le commissariat du peuple à l'industrie lourde, donc le ministère de l'industrie, ou le poste de commande de la politique de l'industrialisation russe, censé être construit à l'emplacement du GUM sur la place Rouge, ici. Projet de Leonidov ici, qui est un projet très intéressant. Pourquoi ? J'en ai déjà parlé du point de vue de la structure visuelle des perspectives dessinées par Leonidov. Ici, ce qui me semble intéressant, c'est le rapport construit par Leonidov entre la silhouette du Kremlin, les clochers du Kremlin et son bâtiment, qui est un bâtiment dont les éléments sont dérivés du monde de l'industrie, du monde des hyperboloïdes, de l'industrie chimique, du monde des grandes structures des usines chimiques. Mais considéré comme une sorte d'extension de développement de la construction verticale russe ancestrale. Les projets les plus délirants s'entassent sur ce concours qui vraiment excite l'imagination des architectes de manière extraordinaire. Le bâtiment de Melnikov à gauche est un gigantesque bâtiment qui monte dans le ciel et auquel on accède par ces escaliers vertigineux qui passent au travers du stator d'une turbine de barrage électrique. Le projet de Fomin le voit pris au dépourvu. Lui qui était le partisan d'un dorique prolétarien mesuré, il se voit contraint dans cette ambiance à développer à l'infini son langage classique. Enfin, les frères Viestin travaillent sur le thème de l'inspiration industrielle et finalement imagine de dresser sur la place Rouge soit 4 hauts fourneaux, bâtiments qui sont des hybrides entre une batterie de hauts fourneaux et un fragment de skyline américaine, soit finalement un grand bâtiment, un grand gratte-ciel qui lui aussi est informé plus par les édifices industriels que par les gratte-ciels art déco de New York. Les discussions pendant ce temps-là sur le gratte-ciel continuent. Et ici, Je voudrais m'arrêter sur quelques éléments du discours qui se déploie dans la Moscou des années 30. D'une part, la discussion de l'architecture américaine qui devient toujours à distance une discussion plus nuancée, c'est notamment celle qu'introduit David Arkin, historien de l'art, auteur d'un premier livre sur l'architecture de l'Occident contemporain en 1932 et qui traduit en 1936 le premier livre de Lewis Mumford. Lewis Mumford, critique, sociologue américain, new-yorkais, extrêmement critique vis-à-vis de la politique des gratte-ciels, et c'est pour cela que ce livre est publié par Arkin. C'est pour ça qu'Arkin obtient qu'il soit publié. Il discute dans ce livre et il fait l'éloge de la culture architecturale des États-Unis. Il propose, tout en la critiquant, de l'étudier de près, dans la mesure où écrit-il, nulle part la ville capitaliste n'a posé à l'architecte autant de problèmes complexes et contradictoires. Le gratte-ciel, notamment, qui comporte, écrit-il, du point de vue de l'architecture, toute une série d'éléments complexes et fondamentalement nouveaux. Complexe est une épithète de la langue de bois soviétique qui recouvre beaucoup de choses, n'essayons pas d'éclaircir ici. Toute une série d'éléments complexes et fondamentalement nouveaux, et dont le sens dépasse largement les limites de l'expérience américaine. Arkin s'intéresse notamment, comme s'il anticipait sur ce qu'en dirait Rem Koolhaas, sur les aspects, sur la multifonctionnalité de certains gratte-ciels et le fait qu'ils assemblent des programmes extrêmement différents dans un seul bâtiment. Un grand intérêt pour cette multifonctionnalité, exprime-t-il. Il célèbre aussi le caractère de Frank Lloyd Wright et de Sullivan, qui sont les véritables héros du livre de Mumford. Donc, Arkin, dont on reparlera, est un petit livre qui aura beaucoup de succès. Une nouvelle fois, le prisme ici est germanique, est allemand. Le livre n'est pas traduit de l'anglais, mais de l'allemand, de sa version allemande publiée en 1928 à Berlin. Les revues d'architecture travaillent aussi à continuer à propager une image de l'Amérique, notamment cette revue, l'architecture à l'étranger, qui est publié pendant à peu près 2 ans, au moment où le débat sur l'architecture n'est pas en train de se verrouiller complètement. Hannes Meyer, dont j'ai déjà parlé, fait partie de la rédaction, et cette revue discute très sérieusement les nouveaux gratte-ciels, et notamment le Rockefeller Center, de façon assez technique. Elle ouvre ses colonnes aussi à notre vieil ami Olterjewski, dont j'ai parlé la dernière fois, qui est rentré des États-Unis, mais qui écrit des textes pertinents dans cette revue. Enfin, le gratte-ciel est discuté comme système urbain. Et je voudrais m'arrêter très rapidement sur ce point. Dans un livre de 1934, Alexei Choussev, architecte éclectique, fin politique, dont j'ai déjà parlé, et un complice, commente l'ensemble des projets publiés en 1929 par Hugh Ferris, dessinateur d'architecture à New York, sous le titre La métropole de demain. Et vous voyez le sens de cette analyse. Choussef souligne l'intérêt du projet de Ferris, qui imagine que la ville, la métropole de l'avenir, aura 3 centres différenciés. Un centre qui sera celui des affaires, on est aux États-Unis, un centre qui sera celui de la science et un centre qui sera celui des arts. Donc l'idée d'une ville multipolaire, chaque pôle étant matérialisé par un gratte-ciel dominant autour desquels des bâtiments secondaires viennent s'agglutiner. Regardez bien cette image, regardez bien ce texte, car il énonce le programme urbain, non pas le programme architectural, mais le programme urbain des gratte-ciels, des immeubles en hauteur qui seront réalisés après 1947 à Moscou. Un des thèmes importants analysé ici, c'est l'idée de l'ensemble, l'idée que Ferris propose, grâce à la magie de son crayon ou de son fusain, de penser les gratte-ciels dans une logique d'ensemble et pas dans une logique individuelle de compétition effrénée, ce que critique encore en 1940 un ouvrage méthodologique sur la composition architecturale de Bunin et Kruglova, qui étaient des anciens étudiants de Ladovski au Frutemas, et qui critique la skyline de New York en parlant de son désordre abyssal, exactement la thématique de Le Corbusier qui critiquait le désordre de Manhattan. Les gratte-ciels de ce pays qui n'a pas de tradition artistique, d'après eux, les États-Unis, ne sont pas corrects architecturalement, car ils ne sont pas proportionnés selon les principes formulés à la Renaissance par Alberti pour les campanili, pour les clochers italiens. Donc pour eux, la silhouette de la ville américaine, qui est tout à fait nouvelle, a commencé à se former pendant une période de régression fortement marquée de l'urbanisme en tant que création artistique. Les villes d'Amérique n'ont pas de patrimoine artistique. Dans les formes de construction utilisées par les gratte-ciels, l'ingénierie l'emporte sur l'architecture, dans la mesure où la première sert d'arme aveugle à la conjoncture capitaliste. Ceci est écrit au moment où les ingénieurs américains tentent de construire le palais des Soviets. Tout ceci témoigne de ce que dans les villes capitalistes d'aujourd'hui, le problème de la silhouette urbaine n'a aucune perspective créatrice. Donc, considération totalement négative. Mais au même moment, 1940, Yoffan, donc l'architecte du palais des Soviets, écrit quant à lui, dans une rencontre nationale de l'Union des architectes, « Il y a des villes remarquables comme Leningrad ou Venise qui sont implantées sur des sites plats. Comment leur silhouette a-t-elle été formée ? À Venise, en premier lieu, par les campaniles et à Leningrad, par les flèches. Il en est allé autrement à Moscou et à Rome, où les architectes ont utilisé les différences de relief du site urbain. Dans une ville comme Moscou, nous devons utiliser et les différences de niveau et les immeubles en hauteur. » Là aussi, vous voyez, en termes de profil, l'idée d'un programme de gratte-ciel se dessiner avant la Seconde Guerre mondiale. Alors, au cœur de ce moment, de cette conjoncture de construction du système stalinien, le plan de Moscou de 1935 est extrêmement important. Il a été largement diffusé et finalement pas si bien analysé que cela. Nous attendons le beau travail d'Elisabeth Aessayan soit publié sur ce thème. Et je ne me permettrai pas de voir dans ce plan de 1935 qui dessine une ville à la fois radiale avec de grandes voies convergeant vers le centre et concentriques composées d'anneaux, je n'y verrai pas de manière maniaque, obsessionnel, un projet américain. Il y a des composantes américaines, mais il y a aussi des composantes françaises, le spectre d'Haussmann, viennoise, l'idée d'une Ringstrasse monumentale. Il y a aussi des échos d'urbanisme à Berlin, notamment ce projet du concours de 1910 à Berlin pour l'extension de la capitale allemande qui imagine ces grands coins de verdure que l'on voit se matérialiser à Moscou, ces grandes structures vertes qui vont de la périphérie vers le centre en découpant la ville en part de tarte, pourrait-on dire. Donc il n'y a pas que de l'américanisme, mais il y a des éléments américains malgré tout. Il y en a aussi dans le système des parcs. Voici la partie sud-ouest du plan, le palais des Soviets et le Kremlin ici. Le palais des Soviets, vous voyez le développement de ces voies, notamment la création d'un système de parcs qui inclut le parc Gorki ici et qui continue vers les Monts des Oiseaux. Dans cette réflexion, les expériences américaines sont convoquées, par exemple dans ce manuel d'architecture et d'urbanisme des jardins de Luntz qui revient sur le Jackson Park construit par Olmsted à Chicago en 1800 pour l'exposition de 1893. Et c'est dans cette logique que le parc Gorki se situe dans un programme d'aménagement qui s'appuie sur les premiers bâtiments créés pour l'exposition agricole de 1923. Quand on regarde les rues principales, et ici je parle de la rue la plus spectaculaire, sans doute la rue de Thiers, qui relie donc le Kremlin, les places centrales à la périphérie, et dont vous voyez le plan ici, les échos de l'américanisme sont assez présents. Je les vois, par exemple, dans le dessin de certains grands bâtiments, de grands îlots. Ici, le tout premier îlot d'habitation en montant la rue Thiers depuis la Place Rouge, construit par Mordvinov, est un îlot qui se rapproche extrêmement clairement. Encore faudrait-il en faire l'analyse de détail, mais par l'utilisation du soubassement palatial, par l'utilisation des portes et de cette grande corniche, des grands blocs de l'Upper West Side de New York, tels que le Bell Nord construit en 1908. Cet idéal de l'îlot entier transformé en un seul projet architectural qui ne sera pas atteint pratiquement pas atteint sur la rue Gorki, nous le voyons ici, en œuvre à New York. Un autre thème intéressant et, je dirais, amusant, c'est le thème du déplacement, de la translation des bâtiments, de manière à élargir l'emprise de la voie. Ici, une publication qui nous montre les précédents américains sur lesquels, de déplacement de bâtiments sur vérin à Los Angeles ou à New York et Chicago, sur lesquels se base ce propos. J'ai parlé d'Olterjevski. Le voici revenu à New York, donc Olterjevski, cet architecte américain qui était. Cet architecte russe, pardon, qui avait passé une dizaine d'années à Moscou, à New York, pardon, dans une position d'enquête architecturale et sans doute d'enquête sur d'autres aspects de la civilisation américaine. Olterjevski revient à Moscou. C'est un cas assez rare de retour d'un soviétique ayant vécu aux États-Unis. Il se voit donner d'assez grandes responsabilités, et notamment celle de construire l'exposition agricole prévue pour 1937. Il est l'auteur du premier plan de cette exposition censée être permanente, et étudie un projet assez remarquable, dont il ne reste pratiquement rien aujourd'hui. Le bâtiment central que vous voyez ici est un bâtiment que l'on peut rapprocher du Hall of Science de la dernière exposition en date, en 1937, à part celle de Bruxelles, qui est celle de Chicago en 1933, qu'Olterjevski avait visitée. Donc vous voyez ici l'idée de cette tour prismatique qui vient de Chicago. Et dans le dessin des différents composants de cette exposition, que je vous montre à l'état brut dans les archives du musée d'architecture de Moscou, on retrouve une sorte de syncrétisme dans lequel projet américain rencontre projet italien. Ici, l'entrée principale dérive fortement de celle de la cité universitaire de Rome. On y voit aussi de grandes voies plantées, et ce plan est en même temps un plan d'espace vert et un plan de construction. En 1937, toute l'équipe du commissariat du peuple à l'agriculture qui était responsable de cette exposition est arrêtée, et le commissaire du peuple Tchernov, qui s'occupait également des expositions, est rapidement jugé, fusillé. Donc le client disparaît, toute l'équipe du commissariat du peuple à l'agriculture est soit fusillé, soit déporté. C'est le cas d'Olterjevski, qui va donc passer, à partir de ce moment-là, quelques années, à Vorkuta, où il deviendra l'architecte en chef, pratiquement l'architecte en chef de la ville. Donc nous voyons cet architecte doté de son expérience new-yorkaise, dont j'ai parlé, à l'œuvre pour imaginer les centrales électriques à gauche, les bâtiments administratifs de la mine, les très élégants bâtiments des administrations de ce qui est une des capitales du Goulag. Donc c'est un épisode dans lequel les savoirs américains ne sont pas directement mobilisés par Olterjevski, mais nous montrent quel est le caractère sinueux de certaines des trajectoires des héros de l'américanisme. Dans le même temps que Olterjevski prend le train pour Vorkuta, Frank Lloyd Wright prend l'avion pour Moscou. Et ce moment est un autre moment structurant dans l'architecture russe de cette période. Wright est invité au Congrès des architectes de 1937, congrès dont la préparation était très laborieuse. Initialement, un nombre très, très important d'architectes américains était censé venir. J'ai retrouvé beaucoup de noms dans les listes successives qui ont été faites pour les invités de ce congrès. On y trouve notamment le nom de Neutra de Los Angeles, mais aussi celui de Lamb, l'architecte de l'Empire State Building. Finalement, Wright arrive et se voit salué par Yofan, par son camarade Alabian, assez triste personnage, et par Arkin, dont j'ai parlé, le traducteur du livre, l'éditeur du livre de Mumford. Vous voyez cette scène très bucolique dans les archives d'Arkin, de Frank Lloyd Wright faisant une partie de campagne dans la périphérie de Moscou. Il prend la parole, Wright prend la parole au Congrès. Il avait été poussé à faire ce voyage par son épouse Olivana, serbe, disciple de Gurdjieff et très russophile. Et il y a donc des liens assez affectifs, très intenses entre lui et la Russie, et des liens qui dureront pendant le reste de sa vie d'ailleurs. Wright fait un discours très ému au Congrès et se permet, bien qu'il ait des rapports cordiaux avec Yofan, de critiquer le palais des Soviets et sa statue géante, disant, je cite, Ce palais, qui n'est, je l'espère, qu'une proposition, n'est bien que si nous y voyons une version moderne de Saint-Georges terrassant le dragon, c'est-à-dire Lénine arrachant son dernier souffle à un gratte-ciel capitaliste. Wright est totalement opposé au gratte-ciel, et, sauf au sien, bien sûr, mais à l'accumulation des gratte-ciel. Et son discours est un discours très, très, très puissant, qui est évidemment censuré dans la version qu'en publie le lendemain la Pravda. Alors, un petit épisode du côté de la culture de masse. J'ai parlé du cinéma et de la pickfordisation de la culture de masse russe dans les années 20. Le phénomène se reproduit et s'étend dans les années 30, notamment au travers des films de Grigori Alexandrov, qui avait été à Hollywood avec Eisenstein, mais qui en revient avec des projets très différents, avec des projets culinaires, pour utiliser le terme de Bertolt Brecht, qui sont des comédies musicales. 1934, Les Joyeux Garçons, sous-titré comédie de jazz, jazz comedy. Vous voyez ici un des plans du film qui nous montre le Music Hall où séjourne un orchestre américain en tournée en Russie. Encore plus clair et plus complexe, le film de 1936, Le Cirque, qui raconte l'histoire d'une jeune américaine qui se réfugie en Russie car elle a eu un enfant noir et a été chassée de chez elle. Donc des films qui sont menés sur un tempo de jazz et qui ont un succès considérable, qui resteront vraiment, le terme est totalement adapté dans ce cas, des films cultes jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui dans la culture russe. Et autre expression de la dualité, le jazz est donc célébré comme divertissement, mais dans le même temps, il n'est pas question que le jazz croise la musique sérieuse, puisque vous savez qu'une des critiques les plus féroces faites contre la Lady Macbeth de Mtsensk de Shostakovich, qui est créée en 1934 à Moscou-Leningrad, et qui est considérée comme un exemple de Meyerholdisme, une des critiques est la présence d'échos du jazz. Le compositeur écrit la Pravda, et c'est sans doute Zhdanov qui a écrit cet article, le compositeur emprunte au jazz sa musique d'énervé, de maniaque, afin de doter ses personnages de passion. Elle nasille, gémit, halète et suffoque afin de rendre les scènes d'amour de la façon la plus naturaliste. Donc, le jazz comme divertissement, pas le jazz comme musique sérieuse. Voyage, à nouveau, et j'en évoquerai deux extrêmement importants dans la vie quotidienne des citoyens de l'Union soviétique. Le premier, c'est celui des deux écrivains humoristes Ilya Ilf et Evgeny Petrov, qui se rendent en Amérique pour faire publier des reportages. Ils s'y rendent en 1935 pour publier des reportages dans le journal illustré à Gagnoc. Et ils publient à leur retour un livre, donc traduit en français sous le titre Amérique, Amérique sans étage, Ad no etage nei America, évidemment par opposition au gratte-ciel, une Amérique qui n'est pas celle des gratte-ciel, que tous les Russes ont l'illusion de connaître, mais une Amérique inconnue. Et ce livre a un succès considérable. Il est publié dans un premier temps sans les photos d'Ilf, qui avaient été publiées dans Aganioc, et critiqué d'ailleurs par Rodchenko. Il y aurait tout un propos à tenir sur les critiques de Rodchenko, celles qu'il fait à propos de Mendelssohn et celles qu'il fait à propos d'Ilf et Petrov. C'est un livre absolument passionnant, et qui va profondément marquer les esprits en Russie, car il donnera une image de la vie quotidienne, américaine, faite de simplicité, mais aussi d'avance technologique. Ilf et Petrov condamnent New York, écrivent-ils, cette cité où 7 millions d'êtres humains sont asservis par 2 millions d'automobiles. Ils découvrent, à côté de ces images de New York et de Chicago, images littéraires, bien en livre et non photographique, il trace un portrait tout à fait neuf du Middle West, de la Californie, et en particulier de Hollywood. On les voit arriver jusqu'à Los Angeles, on les voit ici, Ilf réalise des photos tout à fait remarquables de la vie quotidienne dans les petites villes américaines qui sont conservées. Pour une part, beaucoup ont été jetées, l'histoire ensuite est compliquée, mais certaines ont été conservées dans les archives à Moscou. C'est là que je les ai trouvées, ces vues d'Hollywood aussi et de Los Angeles qui sont tout à fait remarquables et nouvelles pour le public russe. Ils saluent dans leur livre, je cite, le caractère démocratique des relations d'homme à homme en Amérique, qui devrait nous intéresser, écrivent-ils, autant sinon plus qu'un nouveau modèle de machine. Ils concluent leur livre. L'Amérique ignore de quoi son lendemain sera fait. Nous, nous savons et nous pouvons même indiquer avec une certaine précision ce que nous serons d'ici 50 ans. Passons. Tout cela ne signifie pas que nous n'ayons bien des choses à apprendre des Américains. Nous nous y efforçons d'ailleurs, mais d'une manière trop épisodique et trop unilatérale. Il ne suffit pas d'étudier les automobiles, les turbogénératrices et les appareils de radio, il faut aussi observer de très près le comportement des ouvriers, des ingénieurs, des administrateurs, de ces derniers surtout, car si nos stakhanovistes dépassent les normes des ouvriers américains, si beaucoup de nos ingénieurs ne le cèdent en rien à leurs confrères d'outre-Atlantique, les administrateurs de notre économie sont encore loin d'égaler ceux d'ici en précision et en ponctualité. Il est remarquable qu'en 1936, Ilf et Petrov s'adresse à Staline et lui envoie une lettre qui est une sorte de recommandation à propos de l'Amérique. Ils décrivent le confort qu'on rencontre dans les coins les plus perdus des États-Unis, c'est une lettre absolument surréaliste, dans laquelle ils racontent leurs aventures au fond du Midwest où ils trouvent des maisons avec des réfrigérateurs et des postes de radio. Et il conclut en disant, lettre à Staline, nous comprenons que l'amélioration du niveau de vie passe par l'augmentation de la production de biens pour la consommation la plus large et par l'amélioration de ces biens, mais la question du goût, du développement du goût chez les gens qui construisent jour après jour une vie nouvelle nous semble aussi jouer un rôle important. De ce fait, des voyages bien organisés en Amérique des responsables du parti pourraient faire beaucoup de bien au pays. Alors, voyage bien organisé, c'est le suivant. C'est le voyage que fait Anastas Mikoyan, membre permanent pendant des décennies de la direction du parti soviétique. On dira de lui qu'il a réussi à survivre politiquement de Ilitch à Ilitch, de Lénine à Brejnev, sans infarctus ou paralysie. Donc c'est le symbole même de la longévité, du leadership soviétique. Mikoyan est envoyé en mission à Moscou, à New York en 1936 pour enquêter sur l'alimentation. Il est en effet l'éponyme du combinat de viande de Moscou. Il est le commissaire du peuple à l'alimentation. Et il mène une enquête qui va aboutir à une nouvelle vague d'importations industrielles des États-Unis en Russie. Cette fois-ci, ce ne sont plus des chaînes de montage de tracteurs, des aciéries, des usines chimiques, mais ce sont des chaînes de production alimentaire qui sont, après les premières qui avaient été des chaînes de fabrication de pain, qui sont importées. Quelques publicités de l'administration de Mikoyan, du commissariat du peuple à l'alimentation, nous montrent ces nouveaux produits qui arrivent, produits par des usines achetées clé en main aux États-Unis, sur les tables et dans les assiettes des soviétiques, des saucisses bien industrielles que l'on attribue à Mikoyan, bien qu'il ait trouvé que celle des États-Unis était fort allemande, des katliati, qui sont en fait des hamburgers. Mikoyan obtient de Staline la permission d'importer, 22 grilles qui sont installés dans les rues de Moscou et de Leningrad pour griller des hamburgers. Des produits industriels comme les glaces, qui n'étaient pas produites en usine, à gauche, comme la mayonnaise, sous-produit de l'industrie de la margarine. On a affaire là vraiment à une transformation de la culture matérielle en matière d'alimentation qui est directement liée à l'action de Mikoyan, dont tout montre ses souvenirs, mais aussi beaucoup d'autres témoignages, qu'il gérait de la manière la plus précise, la plus méticuleuse, jusqu'à la description des menus types de l'alimentation des familles. Et c'est directement en liaison avec ce voyage qu'est publié en 1939 et surtout en 1952 un livre qui sera le manuel de cuisine standard de la Russie pendant des décennies, le livre de la cuisine savoureuse et saine, qui est qui montre cette image fastueuse de banquet sur ces pages d'ouverture et qui, à l'intérieur, présente de manière extrêmement architectonique, notamment ce paysage de glace à droite est assez étonnant, qui montre donc les produits qui tous dérivent, mayonnaise, glace et autres, qui tous dérivent du voyage d'études de Mikoyan, qui est géré dans tous ses détails par Staline, puisque Staline lui demande même d'emmener avec lui un ingénieur du nom de Krugman, en qui il a particulièrement confiance. Donc c'est un travail vraiment de détail. Qui n'aboutira pas complètement. Mikoyan voulait importer en Russie des réfrigérateurs, et c'est directement Staline qui s'y opposera au nom de l'hiver russe. L'hiver russe est assez long et assez froid pour que l'on puisse se dispenser de réfrigérateurs, et les premiers réfrigérateurs ne seront pas produits, à part une très brève tentative, avant 1949 par l'usine d'automobiles de Moscou. Ce qui est intéressant dans cette histoire, ça n'est pas tant la transformation de l'alimentation, c'est véritablement la création, le déplacement, la translation d'une filière industrielle, comme cela avait été le cas dans le champ de la production de tracteurs avec les usines d'Albert Kahn. Alors, je voudrais terminer en évoquant deux effets de la Seconde Guerre mondiale. D'abord, pendant la guerre elle-même, la très grande importance du système du prêt-bail, Lend-Lease, ce système par lequel les États-Unis vont transférer des équipements à la fois vers l'Union soviétique, mais aussi vers la Grande-Bretagne, un ensemble d'opérations qui seront totalement décisives dans la victoire des Alliés. Vous voyez ici la carte des itinéraires que suivront, maritimes ou aériens, que suivront ces livraisons. Le pré-bail intervient alors que les Russes n'ont pas simplement importé des saucisses ou des usines de saucisses, mais aussi beaucoup de technologies aéronautiques. On peut dire qu'au milieu des années 30, l'URSS absorbe à peu près 20% des exportations aéronautiques des États-Unis, surtout des avions civils, mais faciles à transformer, des moteurs, les chasseurs russes qui équipent l'aviation républicaine espagnole ont des moteurs américains. Bref, il y a des rapports déjà très intenses dans le domaine de l'aviation, mais ils prennent une autre dimension lorsque des milliers, voire des dizaines de milliers d'avions transitent les États-Unis vers la Sibérie, en passant par le Canada et l'Alaska. Vous voyez ici certains de ces avions, Aera Cobra, surnommés Kobrushka par les aviateurs soviétiques, dont un des plus grands As de la chasse, Pokrishkin, qui remportera beaucoup de victoires aux commandes d'un de ces avions. Donc la présence de la technologie américaine a un sens très concret dans cette période avec la technologie aéronautique, avec la technologie de transport. Les camions Studebaker, les Jeeps vont devenir un équipement standard pour l'armée rouge. Et quant aux industries militaires, eh bien, elles tourneront, par exemple, grâce à la production, grâce aux livraisons d'aluminium américain, puisque, par exemple, la grande usine d'aluminium de Zaporozhye était occupée par les Allemands. Donc, le pré-bail va inonder la Russie de technologies américaines, mais aussi va permettre à la Russie de survivre sur le plan alimentaire. J'ai trouvé dans les archives nationales de Washington, la photographie du haut que je trouve assez amusante, qui nous montre une réception à New York en faveur de l'aide à la Russie, lors de laquelle vous voyez en haut cette espèce de gratte-ciel de pièces montées de pâtisserie, hein, autour de laquelle se congratulent ces officiers. Donc voilà, ça c'est le volet public, mais le volet matériel très concret, c'est l'exportation de millions de tonnes de viande en conserve qui vont vraiment être une des bases de l'alimentation de guerre en Russie. Après la guerre, les Soviétiques insisteront sur le fait que le pré-bail n'aurait représenté qu'à peu près 4% de la production industrielle des temps de guerre, mais les chiffres, qui sont d'ailleurs très variables, ne vont pas dans ce sens-là. Après la guerre, les Russes essayent un temps de demander la poursuite du pré-bail dans le cadre de la reconstruction d'un pays dévasté. Truman s'y opposera car la guerre froide commence et les agissements soviétiques en Pologne le conduisent à interrompre cette politique. Sur le plan de l'architecture, et j'en terminerai là-dessus, il est frappant de voir que la reconstruction donc, d'un pays dévasté comme la Russie, dans toute sa partie européenne, est imaginée selon les lignes des méthodes américaines pendant, en tout cas, un certain nombre d'années. Et j'évoquerai ici plusieurs aspects de cette politique. Premier aspect, la réflexion au sein de l'Union des architectes. Les architectes sont évacués, se retrouvent à Chimkent, en Asie centrale, où ils fantasment sur la reconstruction de l'Union soviétique après la guerre. Ils réalisent beaucoup d'études sur les expériences américaines. Ici, un livre de Rieger, ancien constructiviste sur la construction des ensembles urbains aux États-Unis. Rieger publie aussi des livres sur les maisons individuelles et notamment sur l'expérience des maisons individuelles préfabriquées aux États-Unis. En fait, dans cette phase, on a l'impression que les architectes russes et les politiques qui les dominent et qui les contrôlent ont à l'esprit de construire une sorte de Russie sans étage, pour reprendre le titre du livre d'Ilfa Petrov, une Russie horizontale, faite de petites maisons. Les rapports avec les Américains sont particulièrement intenses, et notamment autour de 1944-1945. Vous voyez ici la page d'une revue de New York qui évoque une rencontre, une conférence russo-américaine sur la reconstruction qui est organisée par la société américaine pour les relations avec la Russie, qui est animée notamment par Harvey Wiley Corbett. Corbett, c'est l'architecte new-yorkais, auteur de beaucoup de gratte-ciel, avec qui Olterjevski avait travaillé. Et dans cette phase, il est intéressant de voir beaucoup d'architectes russes correspondre avec Corbett et d'autres Américains. C'est le cas d'Alabian, c'est le cas de Victor Vesnin, c'est même le cas du président de l'Académie des Beaux-Arts, Igor Grabar. Ils écrivent tous aux Américains, apparemment de manière concertée, pour leur demander des renseignements sur les méthodes de construction rapide aux États-Unis. Alabian demande des informations sur les standards en matière de zoning et d'urbanisme. Olterjevski, réapparu, revenu du goulag en 1943 à la suite des pressions américaines, s'adresse aussi à Corbett et lui demande d'intervenir sur ces questions et demande des renseignements sur la reconstruction. Donc il y a conférence à Moscou et aussi plusieurs projets d'exposition réalisés, en tout cas élaborés aux États-Unis. La plus importante est cette exposition qui est préparée donc, par le Conseil national de l'amitié américano-soviétique sur l'exposition américaine, 40 planches qui sont envoyées à Moscou en 1945. On n'a aucune preuve du fait, aucun témoignage de sa présentation effective à Moscou. J'ai trouvé les traces de la discussion de cette exposition dans une des instances de l'Union des architectes. Aucune preuve du fait qu'elle ait été montrée. Cette exposition avait été élaborée par une série de critiques d'architecture et montrait donc les différents aspects de l'architecture américaine, la grande ville, évidemment le gratte-ciel. Ce sont des planches que j'en ai trouvées par hasard dans une bibliothèque américaine. L'habitation collective, l'habitation individuelle, vous voyez ici les cités édifiées en temps de guerre et notamment cet ensemble d'habitations de Richard Neutra, de l'ensemble de Channel Heights à Los Angeles, qui est le premier ensemble édifié d'habitations individuelles édifiées par un architecte radical moderne aux États-Unis. Ici, d'autres planches sur les bâtiments pédagogiques et enfin sur les musées. Vous voyez ici le Musée d'art moderne de New York et son plan. Donc tous les aspects de la vie américaine vus au travers de l'architecture. Le design de cette exposition, de ces panneaux, a été fait par Frédéric Kiesler, qui est un artiste d'origine viennoise extrêmement important sur la scène new-yorkaise dans cette période. Rien ne prouve que cette exposition a été présentée. Le débat sur la construction, et j'en termine, se joue aussi au travers de projets dans lesquels les expériences américaines de certains architectes voyageurs se condensent. Ainsi, Bourhoff, qui avait passé un certain temps à Detroit dans les années 30, mais qui avait aussi visité Miami, reprend la thématique de l'architecture de Miami, le front de mer avec les gratte-ciel, dans son projet pour la reconstruction de Yalta en 1945, dans les années 40, projet réalisé sous la conduite générale de Moïse Ginsburg, qui était chargé de la reconstruction de cette partie du pays. Bourhoff le payera assez cher par la suite, il sera attaqué pour avoir fait ce projet américanisant. Enfin, Amtorg, dont j'ai parlé déjà, la société qui organise le commerce russo-américain dans cette période, réalise de très épaisses publications sur l'expérience américaine de reconstruction, de construction urbaine, d'aménagement urbain. Ici, vous voyez l'image d'une ville nouvelle de la région de Washington. À gauche, vous voyez d'autres images de ces ensembles d'habitations et surtout beaucoup d'énergie est consacrée à toutes les technologies qui permettraient la construction industrialisée. Il est clair qu'avec le début de la guerre froide, tout ceci s'interrompra et que finalement, le seul débouché concret de cette intense agitation qui a duré pendant 2 ans et qui a mobilisé énormément de techniciens et d'architectes des deux côtés sera une petite exposition sur la construction rapide aux USA qui s'ouvre en 1946. Aucune preuve que l'exposition plus ambitieuse ait été organisée. En effet, cette référence à l'Amérique était encore dans le climat presque euphorique de la fin de la guerre permise, tolérée, voire encouragée, devient, avec les débuts de la guerre froide, totalement inadmissible. Et les principaux agents de tous ces contacts auront les plus grandes difficultés à opérer. Ce sera le cas d'Arkin, ce sera le cas de Bourhoff et de quelques autres. Mais nous les retrouverons la semaine prochaine dans un épisode conclusif. Merci.